Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bonjour et bienvenue à tous à l'écoute de ce numéro de Métropolez-vous. Je suis très heureux de saluer aussi ceux qui découvrent cette émission. L'automne vient de prendre ses quartiers à Toulouse comme ailleurs et même la rentrée semble désormais loin derrière nous. Ne parlons même pas des vacances, c'est le moment où l'on commence à prendre le rythme de croisière de ce qui va être une année de travail. Dans la métropole toulousaine, un certain nombre de projets urbains suivent leur cours, quelques-uns entrant dans de nouvelles phases malgré la crise sanitaire qui dure depuis un an et demi maintenant. Les chantiers se poursuivent et ils peuvent être de longue durée, surtout lorsqu'ils concernent des zones vastes et qu'ils mettent en jeu plusieurs dimensions, urbanistiques, environnementales ou économiques. C'est le cas notamment d'un des projets les plus emblématiques de Toulouse Métropole, celui du Grand Matabiau Quai d'Oc. Il va changer le visage, reconfigurer le quartier de la gare Matabiau, ainsi que sa liaison avec le centre-ville de Toulouse. Et il intègre également un autre projet d'envergure, celui de la future tour Occitanie. Nous allons donc consacrer toute cette émission à vous faire découvrir le projet du Grand Matabiau Quai d'Oc. Et pour nous plonger dans ce projet du Grand Matabiau Quai d'Oc, j'ai le plaisir de recevoir de nouveau à Métropolez-vous Annette Legnaud, vice-présidente de Toulouse Métropole, chargée de l'urbanisme et des projets urbains. Bonjour madame et merci d'être encore au rendez-vous de cette émission. Vous êtes également adjointe au maire de Toulouse, je le précise. Et puisque nous allons parler d'un des projets les plus importants du mandat actuel, je vais profiter de votre présence pour vous demander de nous rappeler quels sont les autres chantiers en cours en ce moment dans la métropole toulousaine, parce qu'il y en a d'autres.
Bonjour, merci de m'avoir accueilli. Bien sûr, il y a beaucoup de projets sur la métropole toulousaine, vous le savez. Sur la ville de Toulouse proprement dit, il y a le projet Grand Matabiau dont nous allons parler, mais il y en a d'autres tout aussi importants. Je citerai rapidement le projet de la cartoucherie, par exemple, un projet qui est une transformation d'une friche industrielle, puisque c'était les anciens locaux du GIAT et de la cartoucherie. Un autre projet aussi au moins important, c'est le secteur de Montaudran, en aérospace, où là, et là il y a tout, la mémoire aussi, parce que c'est la mémoire des pionniers, donc l'histoire, et de l'autre côté un campus de l'innovation, dans le domaine de l'aéronautique, dans le domaine de l'espace, et c'est ce qui fait le lien avec les ingénieurs dont je parlais qui ont créé l'aéropostale. Et puis au milieu, un lieu de vie avec un nouveau quartier, de nouvelles habitations bien sûr, mais avec des aménités, et il y aura deux stations de métro également qui traverseront cette zone d'activité. Alors il y a d'autres projets, le CEAT par exemple, le quartier Guillaumet, qui est un futur quartier avec un opérateur privé. C'était une friche industrielle également, à proximité de l'école d'aviation civile, qui va devenir cité administrative. Et ce quartier qui se développe avec de la mixité également et de la qualité comme nous le souhaitons. Puis je pourrais en citer d'autres parce qu'il y a des quartiers sur lesquels nous réfléchissons, des secteurs de patrimoine sur lesquels nous sommes en train de réfléchir. Voilà, donc on a parlé du quartier Saint-Michel qui est toujours en piste de réflexion, le secteur d'Agrave qui est toujours en piste de réflexion, les opérations que nous menons sur la chapelle Saint-Joseph puisque nous sommes en train de réhabiliter la chapelle Saint-Joseph. Voilà, donc des projets sur plusieurs sujets. Puis je citerai aussi des projets de Dessine-moi Toulouse. Enfin bon, je ne vais pas citer tout ce que nous avons réussi à impulser sur la ville et qui sont importants.
Voilà, des projets qui pour les uns et les autres sont à différentes phases de leur développement, de leur construction. On en vient donc à ce projet du Grand Matabiau Quai d'Oc, ex-Toulouse Euro-Sud-Ouest, pour ceux qui s'en rappellent. Est-ce que vous pouvez nous préciser les limites de la zone où le projet se déploie, et puis aussi peut-être ce qui le rendait nécessaire, parce qu'il fallait faire quelque chose pour ce quartier Maringot-Matabiau, notamment en vue de l'arrivée de la ligne à grande vitesse de la LGV, de la future LGV à Toulouse?
Le quartier Matabiau-Quai d'Oc, en fait, c'est 135 hectares, donc c'est très vaste.
Oui, il est immense.
Et qui englobe les 70 hectares de foncier ferroviaire, puisqu'on est au cœur de l'activité ferroviaire, donc 70 hectares. Et puis le reste, ce sont les quartiers Périole, le quartier Bonnefoy, le quartier Maringot, tous ces quartiers qui sont à proximité de la gare, qui sont des quartiers populaires, et c'est important parce qu'il faut maintenir cet aspect, donc c'est un enjeu pour nous, mais ce sont des quartiers qui sont pour le moins dégradés, quand on a connu l'avenue de Lyon, puisque feu l'avenue de Lyon, elle est en partie démolie, donc un quartier dégradé et qui nécessite d'être aménagé. Alors pourquoi aménager? Parce que d'abord il y a la gare elle-même, c'est un nœud important. Alors je vais utiliser un terme qui est un peu techno, mais qui est un nœud modal, ça veut dire qu'il y a plusieurs modes
De transport, il y a des déplacements qui repartent, qui convergent, qui arrivent et qui repartent.
Donc ça permet, ce lieu-là, avec tout mode de transport, permet de rapprocher les habitants du centre-ville et de lieux d'activité, parce que beaucoup de personnes travaillent au centre-ville, et de même, certains partent du centre-ville pour aller travailler à l'extérieur, mais, et même parfois assez loin. Donc c'est un nœud avec plusieurs modes de transport. Je les rappelle succinctement parce que c'est vraiment important. Il y a d'abord la gare, l'activité gare avec les grandes lignes traditionnelles. Il y a les lignes, comment dire, de banlieue. Enfin, si je peux utiliser un terme qui est plutôt parisien, mais qui peut...
De type RER à Paris.
De type RER à Paris. Il y a l'annonce récente consacre la réalisation dans un avenir proche de la LGV. On en parlera peut-être après, mais c'est vraiment un soutien de l'État des plus importants pour la ligne LGV. Et puis, il y a des lignes de métro. Donc, il y a la ligne A, mais maintenant, il y a la troisième ligne de métro. Si bien que de tous les points cardinaux, finalement, de la collectivité, ben, tous les points cardinaux, tout converge sur la gare Matabiau. Donc, c'est un projet d'aménagement de ce pôle modal, de ce pôle de transport, et puis une gare routière aussi, j'oublie.
Oui, bien sûr.
Donc, toutes ces modalités de transport convergent en un point qui est la gare Matabiau. La gare Matabiau qui est à 500 mètres du centre-ville, de la place du Capitole, c'est exceptionnel. Et puis, des quartiers autour qui ne demandent qu'à être restaurés pour certains, donc avec une valorisation foncière et la création d'un quartier, d'un nouveau quartier qui intègre la notion populaire que j'évoquais, mais avec une forte mixité fonctionnel. Donc, il y aura des bureaux, parce que s'il n'y a pas de bureaux là, bah, en centre-ville, il n'y en aura nulle part. Donc, des bureaux. Et puis, une mixité sociale, puisque nous voulons un quartier qui respecte l'identité actuelle du quartier, avec du logement social, de l'accession à prix maîtrisé. Et puis, bien sûr, ce que l'on doit attendre d'un quartier nouveau, c'est-à-dire un quartier malgré tout aussi aéré, avec des espaces de végétation, des espaces d'implantation, parce que même si on ne peut pas rêver dans un périmètre aussi habité, si je peux dire, par des activités. On ne va pas rêver, on n'aura pas des immenses parcs, mais il faut s'y sentir bien dedans. Voilà, donc il faut un quartier où la nature aura toute sa place.
Donc, deux grands aspects, le pôle multimodal, ça c'est pour la partie transport et déplacement, donc on va se faire connecter tous les modes de déplacement, le train, le métro, le bus, la voiture, le vélo, et puis évidemment les aspects piétonniers bien sûr, et puis projet urbain donc, projet d'habitat, projet économique aussi parce qu'il va y avoir en fait une espèce de quartier d'affaires qui va se construire ici, se développer.
Quartier d'affaires, pas uniquement quartier d'affaires, c'est la mixité avant tout. Donc il y aura des bureaux, il y aura du logement, mais il y aura aussi des bureaux. Alors je crois que les bureaux, c'est à peu près 200 000 m². Ça peut paraître beaucoup dans les chiffres, 200 000 m², mais ça correspond à un besoin dans le centre-ville. Nous savons, même actuellement, où l'activité économique
est ralentie,
on sait qu'il y a des bureaux, des ensembles de bureaux qui peuvent poser problème. Dans le centre-ville, il y a une très très forte demande de bureaux qui n'est pas servie. Donc cette demande est forte, même actuellement, et nous devons répondre aux attentes des entreprises et des entreprises locales, mais aussi d'entreprises extérieures
qui viendront s'installer,
puis j'en doute pas un instant, avec les annonces de LGV, avec la proximité de ce pôle qui finalement distribue les différents acteurs très rapidement autour de la métropole. C'est le lieu où on a vraiment besoin d'avoir de l'activité tertiaire pour répondre aux besoins et aux demandes des entreprises.
Donc de l'activité tertiaire, des bureaux, il y aura des banques sans doute qui vont s'installer aussi, des succursales,
des commerces. Alors le commerce, c'est à peu près 30 000 m² de commerce. Alors nous sommes très attentifs au commerce parce que l'objectif n'est pas du tout de déstabiliser le commerce du centre-ville. On sait que le centre-ville souffre, a souffert comme un petit peu partout et il ne faut pas qu'une activité commerciale tellement bien positionnée à cet endroit-là recomposée et restituée aille en contradiction ou en opposition ou en concurrence avec le commerce du centre-ville. Donc on y travaille de façon très très précise de manière à ce qu'il y ait au contraire plutôt de la cohérence entre l'implantation à la gare et les implantations dans le centre-ville.
Alors vous parliez de cohérence, il y a une chose importante qu'il faut peut-être aussi qu'on mette en avant, c'est la connexion entre le centre-ville et ce futur quartier Matabiau, Grand Matabiau Quai d'Oc, par les remblasses, les nouveaux remblasses des allées Jean Jaurès.
Alors il y a une connexion, mais il y en a une autre aussi, par la rue Bayard. Rappelez-vous, la rue Bayard, c'est la première opération que nous avons lancée, justement pour faire le lien rapide, comme les remblasses d'ailleurs, parce que c'est deux voies qui sont parallèles, pas de même nature, mais qui sont parallèles, l'une qui relie directement la place du Capitole Capitole, et l'autre à la place Wilson, au bord du canal du Midi. Donc j'évoquais pas le canal du Midi tout à l'heure, mais il y a aussi sur le gâteau ce canal du Midi qui passe devant la gare Matabiau. Donc vous
voyez. Avec un parvis qui vient d'être.
Alors le parvis, c'est la première phase de l'opération. La première phase de l'opération, c'est l'aménagement du parvis, c'est tout l'aménagement des bords du canal du Midi, puisque ça a été aménagé. Le boulevard Pierre-Sémar qui a été aménagé également. Et puis des petites pépites qui sont peut-être pas connues de tous, mais la petite écluse. Il y a une écluse qui est charmante, absolument charmante, sur les bords du canal du Midi, qui a été restaurée, qui vient d'être louée à un commerce de bouche. Et puis il y a la place Arago, qui est une autre petite pépite située côté Périole et qui est une petite place qui est un bijou, mais qui était occupée par des voitures et que nous avons restaurée également.
Oui, il y a un aspect patrimonial
qu'il y a un aspect aussi
mise en valeur d'un patrimonial ancien, mais c'est un peu,
des petites pépites qui nous sont semblées essentielles dans l'aménagement, sans parler des pauses minutes de l'avenue de Lyon qui a été aménagée en priorité.
Alors c'est le moment peut-être qu'on évoque aussi ceux qui œuvrent, l'équipe qui est derrière cette reconfiguration du quartier, à commencer par l'urbaniste catalan. Je pense que maintenant les gens commencent à connaître son nom, Joan Busquet.
Voilà, Joan Busquet travaille depuis longtemps sur ce projet. Alors il n'est pas seul, puisqu'il travaillait avec Michel Devine, qui est un paysagiste, qui est très connu de la même façon que les Joan Busquet et Gis. Et puis, je crois que c'est des éclairagistes spécifiques qui ont participé aussi. Donc, une équipe de maîtrise d'œuvre.
Et un architecte, Jean-Marie Dutilleul, je crois, qui conduit le projet.
Matabiau
Maringo.
Voilà. Donc, une équipe de maîtrise d'œuvre dont le contrat s'arrête. Donc, nous venons de relancer un concours de maîtrise d'œuvre pour la poursuite, puisqu'on arrive à une phase décisive. La ZAC est créée, donc toutes les procédures administratives ont été obtenues. Il y a une DUP, mise en compatibilité avec les documents d'urbanisme. Donc tout est prêt et nous entrons maintenant dans une phase plus opérationnelle, puisque nous le pouvons. Et c'est le moment où le contrat de Joan Busquet s'arrête. Donc nous sommes en train de relancer un concours de maîtrise d'œuvre. Pour l'instant, nous avons reçu des offres, puis je n'en sais pas plus.
Ça commence juste. Les partenaires du projet, il faut qu'on les évoque aussi. Et puis le montant total du budget, qui est quand même conséquent.
Qui est pas mal. Alors, je crois que ce qui est exceptionnel, c'est la conduite de ce projet. C'est un projet partenarial. Les parties prenantes, vraiment, c'est l'État, la région, le département, la SNCF, le groupe, puisqu'il y a plusieurs sociétés de la SNCF qui sont parfois, quelquefois même un peu en concurrence, donc les SNCF, et puis bien sûr la métropole. Donc,
et Tisséo.
Oui, Tisséo, alors mon Dieu, oui, bien sûr.
Tisséo collectivité,
bien sûr, au milieu, puisqu'il est un élément essentiel du projet. Et ce qui est exceptionnel, c'est que c'est un projet partenarial. Il y a eu des actes qui ont été signés avec l'État, et Emmanuel Vargon, qui est venu...
La ministre déléguée auprès du ministre de la Transition écologique.
Qui traduit l'engagement de l'État à participer à cette aventure, si je peux. Donc, financièrement, l'État nous accompagne dans ce projet, et c'est le projet... Alors, je cherche le terme dans ma tête, c'est un projet partenarial, il y a un terme spécifique...
Projet partenarial d'aménagement, je
crois. Oui, c'est un projet partenarial d'aménagement. Alors, j'insiste là-dessus, parce que c'est le premier en France. Le projet partenarial d'aménagement, ils ont été initiés essentiellement sur la région parisienne, pour le Grand Paris, et le premier projet partenarial d'aménagement provincial, si je peux dire, et celui de Toulouse, avec un engagement de l'État dans la signature de ce projet. Alors, le projet d'aménagement, c'est 257 millions, la ZAC, c'est 257 millions d'euros. Alors, il y a à côté le projet multimodal, qui est de l'ordre de 110 millions d'euros aussi. Donc, il faut rajouter plein de choses. Voilà, donc c'est 257 pour la partie aménagement. Je crois qu'il y a 100 millions qui sont uniquement sur le foncier, puisque nous avons une convention également avec la SNCF qui s'est engagée à nous céder des fonciers, donc il y a 100 millions de fonciers. Et puis il y a des financements qui viennent également de la métropole, puisque l'opération du parvis, l'aménagement du parvis du canal, c'est la collectivité, c'est la métropole qui l'a financé pour 20 millions. Donc il y a aussi des participations directes de la métropole pour certaines opérations, donc la place Arago par exemple, ces choses-là. C'était des budgets spécifiques. Voilà. Donc, c'est important, dans le cadre d'une ZAC, une opération d'équilibre de cette nature-là. Voilà.
Alors, le calendrier, maintenant, parce qu'on vient de terminer une phase, comme vous l'avez dit il y a quelques minutes, la phase 2017-2020, qui avait consisté à lancer les opérations, à libérer les emprises ferroviaires, refondre les accès des gares routières, réorganiser le parvis, qu'on a évoqué, la parvis Canal du Midi, et puis donc réaménager l'avenue Lyon et le boulevard Pierre-Sémar et Bonrepos. Et puis, on rentre dans une nouvelle phase qui va se poursuivre jusqu'en 2026, je crois.
Alors, 2020-2026, c'est une phase très, très opérationnelle qui a démarré, puisque déjà, il y a eu la réalisation de la rue Rénale entre le chemin du Raisin et l'avenue de Lyon, et un développement immobilier par la SNCF, qui a démarré il n'y a pas très longtemps, et qui a été attribué, d'ailleurs, d'une opération de mixte, avec beaucoup de bureaux, un peu de logement et du stationnement. Et puis, d'autres opérations vont suivre sur Cernam, ce qu'on appelle Cernam, des opérations de la SNCF également. Et ensuite, il y a l'avenue de Lyon. L'avenue de Lyon, dont les démolitions vont être terminées à la fin de l'année, et une reconstruction qui devrait démarrer courant 2022. Donc un gros projet là, parce que c'est ce qui se verra vraiment. C'est ce qui se verra tout de suite, la reconstitution de ce qu'était l'avenue de Lyon, qui est le lien entre le centre-ville et puis le premier quartier, qui est le quartier du Faubourg Bonnefoy. Donc l'image est importante. Alors là, il y a une volonté de mixité, bien sûr, mais il y a un projet qui nous tient un peu à cœur, qui est un projet d'innovation sociale également, avec les partenaires de la collectivité que nous sommes en train d'étudier. Alors pour de l'accueil, il y a des services très très particuliers qui sont en demande de locaux, une halte pour la nuit, un restaurant de nuit pour les plus démunis, également un service intégré d'accueil et d'orientation, la SIAO qui doit accueillir éventuellement, je pense aux femmes battues par exemple, qui pourraient...
Des aspects sociaux aussi.
Un aspect très très social, donc c'est un centre d'innovation sur lequel nous travaillons avec tous les acteurs, voilà, donc ce sera sur cette première tranche 2020-2026, et après 2026, une autre partie, il y a ensuite 2020-2026, Marengo. Alors Marengo, c'est excessivement important parce que c'est le pendant de la gare Matabio, côté Marengo, avec une halle des transports qui sera la gare, mais la gare version moderne de la gare Matabio, et en dessous les stations de métro, l'accès aux stations de métro de la future troisième ligne, un parvis également, donc un nouveau parvis, donc une nouvelle adresse de la gare Matabio qui sera au niveau de Marengo. Donc c'est une opération qui est excessivement importante et qui va se dérouler de 2020 à 2026, et après 2026, il s'agira de travailler sur le secteur de Périole. Là aussi, un nouvel accès de la gare, donc un parvis Périole, si je peux dire, et puis une recomposition urbaine de l'ensemble de ces fonciers. Donc ce sera pour après 2026.
Alors, il y a un autre projet qui s'insère dans ce projet plus vaste, plus global, c'est le projet de la tour Occitanie, cette fameuse tour dont on nous parle depuis quelques années. Alors certes, ça relève d'un opérateur privé, ce n'est pas mené par la métropole. On peut peut-être en dire un mot, où en est ce projet, ce chantier, futur chantier, parce qu'il n'est pas commencé.
Donc je rappelle que cette opération a été, le permis de construire a été délivré. Enfin, c'est un concours, je rappelle, c'était un concours lancé par la SNCF sur un foncier qui était le foncier du Tripostal. Donc, à l'issue d'un concours, il y a eu un jury qui a identifié la tour de Liberskine comme étant le projet qui symbolisait le plus l'ambition.
Liberskine, c'est l'architecte, concepteur de...
Le concepteur du projet, avec une équipe toulousaine, puisqu'il y avait l'équipe de Cardam qui est un architecte toulousain, et une équipe d'architectes toulousains, et donc c'était le projet qui symbolisait le plus l'ambition, à la fois l'ambition de la métropole, mais l'ambition de tous, et qui se rapprochait le plus, qui intégrait le mieux le canal du Midi, parce que c'est en bordure du canal du Midi. Le canal du Midi est inscrit sur la liste du patrimoine UNESCO, donc ça oblige à...
Il y a des contraintes,
on peut pas y faire n'importe quoi, et ce projet, il avait le canal se prolongeait, enfin c'est ce qui a pu être présenté
en ruban,
c'était le ruban du canal qui s'enroulait autour
vers le ciel.
Alors pas bleuté mais vert, parce que le canal du Midi est tellement ombragé qu'il en est vert, et ce ruban qui s'entoure autour de cette tour, c'est le ruban du canal du Midi qui se prolonge, voilà, donc c'était un petit peu le symbole. Donc c'est un projet sur 150, plus de 150 mètres, 153 je crois, 152
153 mètres officiellement,
voilà, qui était donc avec du bureau. Alors l'originalité de ce projet, c'est sa mixité, puisqu'il y aura 11 000 mètres carrés de bureau, il y aura 100 à 120 logements, Il y aura un hôtel, un restaurant-bar panoramique au dernier niveau, avec même un jardin sur le toit, si je peux dire, ouvert, accessible aux Toulousains, selon certaines conditions, bien sûr. Et puis, du commerce. Donc, une tour très, très originale, parce qu'habituellement, les tours, elles sont monofonction. Là, c'est vraiment une mixité fonctionnelle importante qu'il faut souligner, et un projet assez exceptionnel. Donc, le permis de construire a été délivré le 23 juillet 2019, et bon, il y a eu des recours, puisque l'association non au gratte-ciel s'est exprimée. En s'appelant non au gratte-ciel, on peut imaginer qu'elle était défavorable à ce projet. Et donc, il y a eu un recours...
déposé devant le tribunal administratif.
Voilà, un recours d'abord gracieux que l'on a rejeté, puisqu'on avait des arguments pour le rejeter, puis que le projet était conforme à la réglementation. Et un deuxième recours qui a été déposé au tribunal administratif, donc qui est juridiquement plus important, et pour lequel nous attendons avec impatience l'avis du tribunal administratif, que l'on espère d'ici la fin de l'année. Ce que l'on peut dire, c'est que le promoteur, chaque fois qu'on discute avec lui, la compagnie de Phalsbourg, il a toujours le même enthousiasme pour ce projet. Son enthousiasme n'a pas faibli, et quand on l'a entendu pour le jury, je peux témoigner que les propos qu'il tient actuellement sont les mêmes que ceux de l'enthousiasme qu'il avait pour le présenter. Voilà, donc nous espérons que d'ici la fin de l'année, les choses seront...
Un investissement de 130 millions d'euros. Donc, voilà, donc le calendrier de la construction, on ne sait pas, il va falloir que le tribunal administratif donne son avis, et puis à partir de là, la construction pourra peut-être commencer, sans doute pas avant 2022, j'imagine, ou plus tôt.
Si le tribunal administratif rend son jugement d'ici la fin de l'année, bon, il faut se retourner un petit peu, donc c'est un peu relancer le projet, donc ça prend un petit peu de temps, mais on peut espérer que dans le courant de 2022. Mais j'ai oublié de dire qu'il y avait un architecte paysagiste qui avait accompagné Liberskine dans le projet, qui est
qui est une
grande compétence pointure dans son domaine, et qui a validé parce qu'on pouvait... On aurait pu douter de ce ruban. C'est une sculpture de ruban. Non, il y a beaucoup travaillé pour assurer la pérennité. Et c'est d'ailleurs la compagnie de Phalsbourg qui garde la propriété des espaces communs, qui sera en charge et qui s'engage à entretenir ce ruban vert tel qu'il est.
Avec des jardins verticaux qui parcourront les différents niveaux donc, de cette tour. Voilà donc pour la tour Occitanie, puisque c'est le nom qui a été retenu. La crise sanitaire dans tout ça, est-ce que ça a ralenti, décalé, reporté des travaux qui étaient prévus dans le quartier du Grand Matéabio Quai-d'Oc?
Alors, toutes les procédures administratives ont été obtenues quasiment fin 2019, début 2020. Donc, le temps de caler, de relancer les consultations, puisqu'on devait relancer la consultation de l'équipe de maîtrise d'œuvre. La première opération qui pouvait sortir à ce moment-là, c'était la première opération de la SNCF au bout de la rue Rénale, parce que c'est compliqué, parce que cette opération abrite des locaux de la SNCF et doit abriter de nouveaux locaux de relogés. Donc il y a des espaces de chaises musicales sur les fonciers SNCF, eux-mêmes avaient des contraintes de déplacement de salariés, donc je crois que ça aura peut-être un peu freiné, parce que tout a été plus ou moins freiné, mais pas de façon trop importante pour déstabiliser un planning qui était...
Voilà,
qui
le
était...
projet suit son cours de façon tout à fait normale et les étapes prévues en 2021 devraient avoir lieu.
Voilà.
Ça va continuer comme ça jusqu'en 2026. Voilà. Et même au-delà, comme vous nous l'avez dit, eh bien, il est temps de conclure cette émission. Et pour moi, de vous remercier d'y avoir participé à Netenio. Merci de nous avoir apporté toutes ces informations et ces précisions sur l'avancement du projet Grand Matéabio Quai-d'Oc et de nous avoir présenté tous les aspects de ce vaste chantier qui va vraiment changer le visage du quartier autour de la gare Matéabio, avec une liaison vers le centre-ville via les remblances des allées Jean Jaurès. Un projet urbain, bien sûr, mais un projet qui revêt aussi un enjeu important pour les déplacements et les mobilités dans la métropole toulousaine. Quant à la future tour Occitanie, affaire à suivre, encore un grand chantier à venir. Notez qu'une présentation détaillée et chiffrée de ces projets est disponible sur le site web de Toulouse Métropole, www.toulouse-métropole.fr, à la catégorie projet, rubrique Grand Matéabio. Ce numéro de Métropolez-vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, et d'ici là, n'oubliez pas, métropolez-vous bien.
Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.